nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'Église a soigneusement choisi les deux textes d'aujourd'hui pour nous aider à bien utiliser ce temps de la Septuagésime, qui est un temps un petit peu tampon, un peu intermédiaire entre le temps de l'Épiphanie et la grande quarantaine de pénitence de Carême. Et donc, il faut bien remettre ces textes, l'Épître et l'Évangile, justement dans cette période pour, qui nous apprend, quelque sorte, qui nous amène lentement au mercredi décembre, le 1er mars cette année, et qui nous, justement, nous prépare à faire ce chemin de pénitence. Le texte essentiel de ce dimanche est le texte du semeur, que vous connaissez bien. Voilà, un paysan qui part dans son champ pour semer du grain, du bon grain. Et puis le grain est semé à l'époque, il se met à la main, donc le grain va tomber un peu partout. Il y a du grain qui, poussé par le vent, va tomber sur le chemin, d'autres qui va tomber sur les pierres le long du chemin, d'autres qui vont tomber dans le petit caniveau qui est le long du champ, qui recueille l'eau de pluie. Et puis il va y avoir aussi du blé qui va tomber dans le bon champ, sur la terre bien préparée. Et en fonction de l'endroit où tombe ce grain, eh bien le grain va pouvoir se développer normalement ou malheureusement périr par manque de terre ou manque d'humidité. Alors comment comprendre ce texte? Il est tout simple, le Père de l'Église explique très bien la façon dont il faut comprendre ce texte, puisque la graine c'est tout simplement la grâce du bon Dieu qui tombe dans une terre qui doit être en principe correctement préparée pour la recevoir, à savoir notre âme. Et notre âme est plus ou moins préparée, est plus ou moins accessible à la grâce du bon Dieu. Donc le bon Dieu, qui respecte notre libre arbitre d'un certain côté, va envoyer des grâces qui seront différentes parce qu'il sait par avance quelle sera notre réponse à cette grâce. À certaines personnes, comme il sait que ces personnes ne vont pas répondre à la grâce, il va envoyer ce qu'on appelle une grâce suffisante, qui ne permet pas la conversion. À d'autres, au contraire, comme il sait que ces personnes ont avec le bon usage de leur vie par arbitre, veulent ouvrir la porte de leur âme pour qu'ils puissent recevoir le bon grain, et le bon Dieu va envoyer cette fois-ci une grâce efficace. Une grâce efficace qui va permettre à la graine de germer et dans ce champ devenir un arbre. Et les oiseaux du ciel vont venir nicher dans cet arbre. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, c'est tout simple. Pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, l'âme est comme un terrain inculte. Ça n'est pas occupé, peut-être pendant longtemps. Alors c'est dur comme la pierre. C'est comme la graine qui tombe sur le chemin, les oiseaux du ciel vont immédiatement venir récupérer cette graine pour la manger. Eh bien, ce grain qui tombe sur la pierre ou sur le chemin, qui ne peut pas germer parce qu'il n'y a pas de terre, eh bien, représente l'âme qui refuse de se mettre dans les meilleures dispositions pour se convertir. Nous avons tous à nous convertir, tous les matins. Tous les matins, il faut remettre le travail, l'œuvre de notre conversion, le travail de notre conversion sur le métier. Il ne faut pas se dire, c'est, je suis converti, je suis catholique, j'ai la foi, pas de problème, je la garderai. Non. C'est précisément parce que, je crois, les Français ont peut-être beaucoup trop dit ces choses-là autour des années 60, que la France est devenue un pays de païens. Parce que justement, ils croyaient que leur foi était quelque chose de ficelé au corps et que donc il n'y avait pas de problème, ils ne la perdraient pas. Ils l'ont pratiquement tous perdu. Et non seulement ils l'ont perdu, mais ils ont même apostasié littéralement pour rentrer maintenant dans l'église de Vatican II. Alors ce grain qui tombe justement sur le chemin, sur la pierre qui ne peut germer encore une fois, représente les âmes qui refusent de se convertir le jour même, ils attendent toujours. Et leur motto, leur mot d'ordre est toujours le même. Demain je me convertis. Mais pas aujourd'hui. J'ai trop de travail, j'ai pas le temps de me convertir. Donc j'attends demain. Et puis le démon arrive en général et va susurrer à l'oreille de ces gens-là un autre mot, un petit mot magique, ailleurs. Je ne veux pas me convertir là où je suis, je me convertirai ailleurs, dans d'autres circonstances, plus tard. Et tous les matins, il répète la même chose. Tous les matins, il repousse de plus en plus loin le désir de conversion. Et le bon Dieu, plein de miséricorde, revient, refrappe à cette porte, mais le bon Dieu ne rentre pas dans une âme qui ne veut pas s'ouvrir. Et le bon Dieu ne va bien pas venir comme un voleur avec un pied de biche pour ouvrir la porte par force, non. Quand tu vois que cette âme refuse de se convertir, reste dans son état de péché, et refuse catégoriquement de changer d'état, eh bien le bon Dieu, au bout d'un certain temps, finit par s'en aller. Malheur à la grâce qui passe et qui ne repasse pas, comme on dit. Donc il faut faire extrêmement attention à ces choses-là et bien vérifier que je ne suis pas dans ce premier cas. Le premier cas est constitué surtout de ceux qui sont en général dans des occasions de péché, qui ne veulent pas en sortir. Ils prétendent aimer le bon Dieu, ils prétendent bien vouloir suivre le bon Dieu, mais à condition de garder soigneusement l'occasion de péché dans laquelle ils sont, dans laquelle ils s'engluent tous les jours. Comme des gens, si vous voulez, qui sont dans un terrain mouvant, qui sont sur des sables mouvants, qui sont en train de les engloutir littéralement, mais ils ne veulent pas sortir de ce lieu-là. Ils s'enfoncent, ils crient, ils appellent au secours, mais ils ne veulent surtout pas saisir la branche qui leur est tendue, la corde qui leur est tendue pour qu'ils se tirent de ce mauvais pas et retrouvent la fermeté du bon chemin. Les âmes comme ça sont très fréquentes, mes bien chers frères, on en voit de plus en plus. On aime bien le bon Dieu, mais dans la pratique, comment rien faire? Je pense que cette première catégorie d'âmes, représentée par ce gain qui tombe sur le chemin, sur la pierre, est représentée justement par ce qu'on appelle les chrétiens non pratiquants. Constamment, les gens nous disent ces choses-là. Ah, je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Et je crois en Dieu, je crois que le bon Dieu est roi de la création, je crois que le bon Dieu a tout fait pour moi, je crois que le bon Dieu est mort pour moi sur la croix, mais dans la pratique, je fais comme s'il n'était pas là. Qu'est-ce qui est pire, mes chers? Un athée ou un chrétien non pratiquant? Qu'est-ce qui est pire, un athée qui prétend ne pas croire en Dieu, ou quelqu'un qui prétend croire en notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans la pratique ne fait rien pour le suivre? Il est évident que c'est la deuxième catégorie. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a la foi et qui refuse de vivre sa foi. Il refuse de vivre leur foi toujours de la même façon, parce que justement ils se rendent bien compte que s'ils vivent leur foi de tous les jours, ils vont devoir changer de tenue, changer de comportement, changer de moyen d'agir pour justement garder notre Seigneur. Il y a du gain également, on dit l'Évangile, qui va tomber sur le côté du champ. En bord du champ, un petit caniveau qui recueille un petit peu d'humidité. Il y a des épines, nous dit l'Évangile, qui poussent là. Le grain va tomber au milieu des épines, encore mis un petit peu d'humidité, la graine va commencer à germer, mais va être étouffée par les épines. Et l'Évangile nous explique que ces épines représentent justement l'amour du siècle, l'amour des choses de ce monde. Mais ceci représente les gens qui aiment bien le bon Dieu, mais qui veulent absolument jouir d'abord parfaitement, aussi parfaitement que possible, du bonheur de ce monde, des bienfaits de ce monde, et qui s'occuperont du bon Dieu plus tard. Ce sont des gens qui acceptent de faire quelque chose pour le bon Dieu, à condition de ne pas faire ce que le bon Dieu leur demande. Pour revenir au même exemple que je viens de vous donner, c'est quelqu'un qui garde par exemple une occasion de péché, qui fait quelque chose pour s'en sortir. Par exemple, il va se mettre à dire, il va dire au bon Dieu, voilà mon Dieu, je sais que je suis dans une occasion de péché, alors c'est embêtant, c'est gênant, parce que cette occasion de péché me pousse à vous enfoncer, mon Dieu. Alors voilà, je vais dire, tous les jours, un chapelet les bras en croix. Comme ça, il va que je fais quelque chose. Mais je garde l'occasion de pécher. Donc il y a une espèce d'hypocrisie dans le deuxième groupe de gens, pour cette graine qui tombe justement dans les épines, eh bien représente ceux qui ne veulent pas prendre les moyens proportionnés pour sauver leur âme et couper avec l'occasion de pécher. Parfois le bon Dieu demande des choses héroïques, il faut bien avouer ce qui est. Rappelez-vous ce que dit l'Évangile dans un autre endroit. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit bien que si notre main droite, notre pied droit, notre œil droit sont pour nous des occasions de péché, mais il faut couper. Il faut couper, arracher, jeter au loin, parce qu'il vaut mieux, nous dit l'Évangile, rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied ou une seule main, plutôt que de tomber en enfer qui est deux yeux et deux pieds et deux mains. Donc posez-vous cette question, est-ce que je suis dans cette deuxième groupe, cette deuxième classe de gens qui aiment le bon Dieu, mais qui aiment aussi le monde. Donc on garde la main droite avec notre Seigneur Jésus-Christ, la main gauche avec le monde, avec les trois concupiscences de la chair, de l'orgueil, de la vie et de l'argent, de l'or, si vous voulez. Et puis on garde les deux choses et puis on essaie de jouer en quelque sorte avec les deux choses. Donc selon les besoins, j'essaie de tirer plus sur une main sur l'autre. Et je ne veux surtout pas lâcher les deux mains. Je ne veux pas lâcher la main de notre Seigneur, mais je ne veux pas non plus lâcher la main des trois concupiscences. Et si je garde ces trois concupiscences en moi, si je garde en moi l'amour de ces trois concupiscences, il est absolument évident que je n'arriverai jamais à m'en tirer. Et donc, je crois que cette graine qui tombe dans le caniveau, dans les épines, représente le libéral. Libéral, qu'est-ce que c'est qu'un libéral? Libéral, c'est un individu bizarre qui essaie de plaire à la fois au bien et au mal. Il veut plaire à la fois au bon Dieu et au démon. Quelqu'un qui donne, qui met en quelque sorte sur le même niveau le bien et le mal, le vrai et le faux. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et qui se dit, alors voilà, je vais diviser ma journée en deux. Une partie de la journée avec notre Seigneur Jésus-Christ, une partie de la journée avec le démon. En fonction des besoins, ben, j'irai plus à droite ou plus à gauche. Eh bien, chers frères, c'est avec des principes pareils qu'on perd la foi. Certainement, un des moyens les plus rapides pour perdre la foi aujourd'hui, c'est le libéralisme. Voilà pourquoi l'Église a soigneusement condamné de façon très ferme, très forte, et répété plusieurs fois le principe même du libéralisme, à savoir la liberté de conscience. Le droit d'utiliser ma conscience pour choisir un peu ce que je veux. Rappelez-vous les quatre mensonges du démon Adam et Ève, c'est exactement ça. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme de Dieu, et parce que vous devenez comme de Dieu, eh bien vous aurez la possibilité de choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Nous catholiques, nous savons très bien que ce n'est pas nous qui choisissons ce qui est bien, ce qui est mal. C'est Dieu qui nous a déjà indiqué ces choses-là. Et comment et où nous a-t-il indiqué ces choses-là? Le bon Dieu nous a indiqué ce qu'il veut que nous fassions, justement par la loi des commandements. Ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu peux accepter, ça, tu dois rejeter. Il ne s'agit pas de dire, mais je ne suis pas d'accord avec le bon Dieu. On entend ces choses-là tout le temps. Oui, d'accord, il y a la loi des commandements, mais moi, ça ne me plaît pas. Comme si des gens essaient d'aller au ciel en obligeant littéralement le bon Dieu à les prendre au ciel. Encore une fois, les gens, on ne peut pas aller au ciel, mais bien, chers frères, si on ne prend pas les moyens pour. C'est pour ça que la graine qui tombe dans le petit caniveau, à cause de ses épines, c'est-à-dire l'amour du siècle, l'amour des choses de ce monde, l'amour de l'orgueil de la vie, l'amour de la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, eh bien, ces choses-là vont empêcher, évidemment, la graine de monter. Un petit plantule qui va sortir de terre, et tout de suite, à cause de l'amour du siècle, l'amour des choses de ce monde, eh bien, on n'obtient rien du tout. Enfin, nous dit l'Évangile, il y a un troisième groupe de gens, heureusement. La graine va tomber dans le bon champ. Et là, encore une fois, il faut faire très attention, parce qu'on voit très bien que, même quand la graine tombe dans le bon champ, chacun va répondre de façon différente. Parfois la graine va donner du 30%, parfois du 60%, parfois du 100%, en fonction de la réponse à la grâce. Qu'est-ce que veut bon Dieu pour nous? Il veut une réponse à 100% de ce qu'il nous a donné. Si je suis une petite graine, ben, le bon Dieu ne va pas demander la même chose qu'à une grosse graine qui peut donner beaucoup plus. Et donc il importe, mes bien chers frères, que nous préparions notre âme avant cette arrivée du carême, justement pour que nous puissions répondre à la grâce. Et pour pouvoir répondre à la grâce correctement, le bon Dieu va certainement nous demander un certain nombre de changements, un certain nombre de choix à faire pendant ces quelques jours avant l'arrivée du carême, justement pour nous préparer à recevoir le bon Dieu. Donc la graine qui tombe dans le champ, c'est celle qui dit « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si je ne la comprends pas, votre volonté. Mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si je ne suis pas d'accord avec votre volonté. » Parce que beaucoup de gens disent, mon Dieu, que votre volonté soit faite, à condition qu'elle me plaise, à condition que je la comprenne. Comme les gens qui disent, je veux bien obéir à mon supérieur, à condition que je sois d'accord avec l'ordre que je reçois du supérieur. Et si je ne suis pas d'accord avec l'ordre que je reçois du supérieur, je n'obéis pas. Ce n'est pas une obéissance comme ça que le bon Dieu veut. Le bon Dieu exige de chacun d'entre nous, mes bien chers frères, une obéissance beaucoup plus forte, beaucoup plus directe. Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, comment est-il possible de répondre à cette grâce? Mais il faut ouvrir les portes. Par le courage d'ouvrir les portes de mon âme et de dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. La grâce est-elle suffisamment puissante pour cela? Oui. Et justement, pour expliquer cet évangile, la Sainte Église a choisi un passage assez long de l'Épître aux Corinthiens de Saint Paul, la deuxième aux Corinthiens. Cet exemple ahurissant d'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, Saint Paul. Saint Paul est, après le Seigneur Jésus-Marie bien sûr, l'égal de Saint Pierre, littéralement. On voit dans toute la liturgie catholique, à chaque fois qu'il y a une fête de Saint Pierre, il y a une oraison de Saint Paul avec. Et s'il y a une fête de Saint Paul, il y a toujours l'oraison de Saint Pierre qui est associée à l'oraison à l'honneur de Saint Paul. Pourquoi? Parce que l'Église met place pratiquement Saint Pierre et Saint Paul presque au même niveau. Saint Pierre, certes, est le premier pape, mais Saint Pierre et Saint Paul sont toujours fêtés ensemble à cause de la grandeur de leur sainteté. Saint Paul, un géant de sainteté, un géant un missionnaire d'une taille prodigieuse. Jamais dans l'histoire de l'Église, il y a eu quelqu'un qui a autant donné que Saint Paul, certainement pas. Au moins dans le domaine de l'esprit missionnaire. Et Saint Paul, le grand Saint Paul, ce géant de sainteté, avait une tentation. On ne sait pas quelle était cette tentation. Un aiguillon dans la chair, dit-il. Quel est cet aiguillon? On ne sait pas. Vraisemblablement, une très forte tentation contre la pureté. Et il a demandé au bon Dieu, « Seigneur, délivrez-moi de cet aiguillon dans la chair parce que ça m'empêche de travailler correctement et de me mettre à votre service. » Je ne peux pas faire tout le travail de mission que je voudrais faire parce que j'ai cet aiguillon dans ma chair. Délivrez-moi cet aiguillon dans la chair. Et que lui répond notre Seigneur? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce que je te donne est suffisamment forte pour que tu puisses justement te sanctifier malgré ces tentations. Et on peut même dire que Saint Paul est devenu Saint Paul grâce à ces tentations. Et si le bon Dieu avait supprimé la tentation de Saint Paul, il serait sans doute pas devenu Saint Paul. Pour cela qu'il va rajouter qu'il faut se glorifier dans ses faiblesses. Glorifions-nous, mes bien chers frères, dans nos faiblesses. On peut même aller presque jusqu'à dire glorifions-nous dans nos péchés. Non pas que cela veuille dire qu'il faut accepter le péché, bien sûr que non. Mais qu'il faut savoir se glorifier le bon Dieu dans nos faiblesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour pour nous, permet chez nous certaines faiblesses pour nous maintenir dans l'humilité. C'est saint Augustin, je crois, qui dit que sainte Marie-Madeleine ne serait sans doute jamais devenue aussi sainte s'il n'avait pas autant péché dans le passé. Et peut-être que si saint Paul, encore une fois, n'avait pas eu ces tentations très fortes, il ne serait pas devenu saint Paul. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Nous aussi, nous sommes dans la même situation. Nous aussi, nous avons des tentations, nous avons des difficultés, nous avons des périodes de découragement profond, de désolation profonde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle le bon Dieu au secours. Seigneur, délivrez-moi toutes ces tentations. Et qu'est-ce que nous répond notre Seigneur? Ma grâce te suffit. Alors on répète, mais Seigneur, je serai plus forte à vous servir, plus fort à vous servir si vous me délivrez de ces tentations. Ma grâce te suffit. Mais Seigneur, vous ne comprenez pas, je ne peux pas aller assez vite dans mon processus de sanctification. Faites quelque chose. Ma grâce te suffit. Et je veux que tu te sanctifies, que tu glorifies tes faiblesses. C'est un grand mystère, mes chers frères. Cela doit nous maintenir dans l'humilité. Que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber, dit saint Paul dans un autre texte. Et donc, si je suis debout, je dois me précipiter au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de la croix, au pied de Sacré-Cœur, pour dire au bon Dieu, Seigneur, venez à mon aide, parce que par moi-même, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Rappelez-vous cette magnifique prière de Saint Philippe Néri, dont j'ai souvent parlé, j'ai souvent cité. Seigneur, Seigneur, gardez Philippe dans vos mains, parce que sans votre aide ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire musulman. Alors il faut dire la même chose, mon Dieu, gardez-moi dans vos mains, parce que d'ici ce soir, je suis suffisamment bête moi aussi pour quitter la foi catholique et rentrer dans l'église de Vatican II ou perdre la foi d'une autre façon. Bien, chers frères, ceci doit nous, ces textes de l'Église, choisis donc pour ce dimanche de la sexagésime, ne sont rien d'autre qu'un appel à la sainteté, un appel à lutter contre la tiédeur, justement, qui nous maintient la tête, je dirais, dans la boue, la tête dans le, dans le, dans les sables mouvants, au lieu de lever la tête vers le bon Dieu qui nous appelle à la sainteté. On a tous peur de devenir des saints. On a peur de devenir des saints parce qu'on a peur de lâcher des choses auxquelles nous tenons beaucoup trop. Et le bon Dieu nous demande de faire un certain nombre de sacrifices. Chacun d'entre nous, nous connaissons très bien les sacrifices que le bon Dieu a choisis pour chacun d'entre nous. Et nous devons, avec générosité, avec courage, avec persévérance, nous mettre sur la voie qui mène au bon Dieu. Ne pas tomber dans cet esprit du monde, dans cette superficialité, dans ce libéralisme, dans cette tiédeur, dans cet orgueil qui nous mène malheureusement à la perte du sens de Dieu. Le plus grave des malheurs qui puissent nous arriver, je crois que c'est ça, perdre le sens de Dieu. Oublier que c'est le bon Dieu qui nous dirige, oublier que c'est le bon Dieu qui nous mène, qui nous guide. Je crois qu'on a perdu ça, on a tout perdu. Alors précipitons-nous, mes bien chers frères, précipitons-nous dans les bras de notre Sainte Vierge Marie. Elle est celle, encore une fois, qui nous amène au pied de la croix. Et celle qui va nous guider, qui va nous aider à ne pas nous décourager et à obtenir de son Fils peut-être certaines grâces spéciales. Notre Sainte Vierge Marie a une influence énorme sur son Fils. Et la seule créature, disons-nous, qui est capable de changer la volonté de son Fils. Nous, on a bien du mal, elle peut. Parce qu'elle est Mère de Dieu, elle peut changer justement la volonté de son Fils et obtenir pour nous certaines grâces particulières que nous serions absolument incapables d'obtenir par nos propres prières. Et comme la Très Sainte Vierge Marie est Mère de Dieu, elle est celle qui est justement co-rédemptrice, elle est en quelque sorte un accès beaucoup plus facile que nous, ce qui est le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle peut justement ouvrir ses portes de la miséricorde du bon Dieu, pour que nous obtenions plus de grâces. Nous demandons toutes ces grâces, mes chers frères, pour ne jamais, jamais nous décourager et attaquer avec grande générosité, grande persévérance le temps de la grande quarantaine du carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.